Je vous propose, en ces temps où l'on reparle beaucoup circuit court et responsabilité à l'égard de la planète, de redécouvrir ce reportage signé Lola Fourmi sur l'industrie du jeans, du denim qui passe au vert.
La première.
Le fin mot, Eddy Kakelbergs.
On est au salon Première Vision, c'est le plus gros salon au monde qui rassemble les exposants de l'amont de la filière textile. Donc les tisseurs, les fournisseurs de matières, du cuir, du denim et aussi d'accessoires, ils sont plus de 2050 cette année, rassemblés pendant 3 jours. Et ici, on parle des tendances automne-hiver.
Je suis Marina Coutelan, je suis responsable mode du département Smart Création, qui chez Première Vision est dédié à l'éco-responsabilité.
Pourquoi finalement la production de jeans est une des plus polluantes au monde ?
Alors en premier lieu, c'est le problème de l'utilisation d'eau. Sur un jean, on est en moyenne sur 8000 litres d'eau. Quand on parle de 8000 litres, c'est vraiment l'ensemble de la production du jean. C'est-à-dire qu'on est vraiment dès la culture du coton, après le tissage, la teinture, le délavage. Par exemple, sur l'étape du délavage qui prenait à peu près 1000 litres d'eau, aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, des nouvelles machines qui permettent de délaver avec l'équivalent d'une tasse d'eau. Donc on est sur 30 centilitres, donc une économie flagrante.
Depuis quand on voit des changements dans la production en amont de la filière textile et en particulier dans la filière du denim ?
Ça fait environ 5 ans que la transition est en route, sur le denim particulièrement. Donc ça a été d'abord l'utilisation de coton bio, ensuite de coton bio mélangé avec du coton recyclé et des nouveaux process de teinture et de délavage.
Est-ce que c'est un marché qui prend de plus en plus de place ? On le voit au début, il n'y avait que 50 exposants, je crois, dans la Smart Création. Au fil du temps, là, on est à 250.
Oui, ça ne cesse d'augmenter. Et là, ça fait vraiment 2 ans qu'on sent une accélération et 1 an qu'on sent un changement quasi systémique dans notre industrie de la mode. Parce que quand on s'engage dans cette voie-là, c'est des investissements au niveau de nouvelles machines. Et c'est aussi que quand on fait un pas vers ça, on ne va jamais revenir en arrière. Aussi parce qu'on a des normes, des régulations qui sont en route, des accords au niveau de la filière. Vous avez entendu parler du Fashion Pact qui fait que tout le monde se mobilise sur la question.
Oui, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une mobilisation qui est un peu opportuniste, branchée ? On parle beaucoup de greenwashing. Est-ce qu'il y a des vrais changements de paradigme ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux ?
Il y a des vrais changements de paradigme aussi parce qu'il y a des nouveaux business models sur le leasing en vêtements, sur des process de location et même des géants comme Urban Outfitters se mettent à proposer des vêtements en location pour avoir moins de problèmes de surproduction et de vêtements qui sont achetés, jetés constamment. Et oui, il peut y avoir du greenwashing parce que en ce moment, ces questions, elles sont brûlantes. Maintenant, pour la plupart, comme je l'évoquais, vu que ça demande des investissements, on ne va pas revenir en arrière.
Parce qu'on le voit, en fait, les changements, ils s'opèrent petit à petit. Par exemple, un fournisseur va décider d'investir dans les énergies renouvelables, l'autre va miser sur le coton bio. Finalement, est-ce qu'on peut tout changer d'un coup ?
Non, on ne peut pas tout changer d'un coup parce que c'est des parcs machines qui ont des coûts très importants et donc la transition, elle se fait petit à petit. Donc on va d'abord travailler sur la fibre, ensuite par exemple sur la teinture, sur le finissage. Voilà, il faut accepter que cette transition, elle prenne du temps et aussi parce que les innovations apparaissent chaque année et donc les tisseurs vont accompagner ces transitions-là.
To make it easy to use, to maintain, to update, repair, reuse, recycle.
On vous emmène maintenant à l'origine de cette toile de jean. Nous voici donc en Turquie. C'est d'ici que proviennent 42% des jeans que l'on trouve en Europe. Le pays a été pointé du doigt pour sa pratique du sablage, qui consiste à projeter à haute pression du sable pour éclaircir le jean, pratique qui aurait causé la mort de plus de 2000 ouvriers et qui a été interdite en 2009. Depuis, plusieurs entreprises essaient de développer des méthodes plus écologiques. C'est le cas notamment de Bossa, installée à Adana. On est tout au sud de la Turquie. Adana, c'est une ville industrielle d'1,5 million d'habitants. Et ici, on a rendez-vous avec Bessim Ozek, c'est le directeur des affaires chez Bossa, pour visiter la manufacture de toiles de denim et ses 20 hectares de surface.
Donc on va commencer par le filage, puis on ira voir la teinture et les finitions. Ça, c'est le coton recyclé. Ici, on produit de la toile de denim en coton qu'on envoie ensuite à nos partenaires. Certains les récupèrent après usage, les retraitent pour en faire des fibres et nous les renvoient ici chez Bossa pour qu'on les utilise à nouveau dans une nouvelle production. C'est la façon de produire la plus écologique au monde. Le recyclage, c'est vraiment le mieux. Encore mieux que le coton bio. Le recyclage, c'est le roi. Aujourd'hui, on est super fiers d'être les meilleurs producteurs de toiles de jeans recyclées sur le marché. On fabrique d'abord le vêtement, et puis on le blanchit. Et ensuite, on fait les trous. Ils sont faits à la main, et c'est cet homme qui fait ça.
Mustapha.
Donc là, Mustapha nous montre comment ils font les trous sur les jeans. Donc là, il enfile le pantalon brut sur une machine qui le gonfle.
Principalement, on fait ça à la main, mais on peut aussi le faire avec une machine, notamment avec un laser. C'est plus rapide et plus facile pour répéter la même chose. On a prévu d'investir dans le laser.
Donc en fait, il compare avec un jean qui vient d'user pour faire exactement les mêmes trous dans le jean d'à côté.
Je peux faire jusqu'à 15, 20 jeans par jour.
C'est pas quand même un peu fou de faire des trous dans un jean neuf ?
C'est la mode, vous savez. La nouvelle génération veut ce genre de modèle de jeans. Donc on doit répondre à cette demande.
C'est la réalité. Oui, la réalité, c'est la mode. Normalement, vous pourriez obtenir cet effet sur votre jean après l'avoir porté 7 ou 8 ans. Avec cette machine et l'aide de Mustapha, on gagne du temps. Personne ne veut attendre 8 ans. Vous voulez l'acheter comme ça dans les boutiques.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que du coup, dans une démarche plus écologique, on devrait arrêter de faire des trous dans nos jeans neufs, même si c'est plus vendeur ?
Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que ce soit porté et que ça plaise. La capacité à être vendu, à plaire aux acheteurs et suivre la mode, c'est plus important que d'être durable. Il faut que ce soit durable et portable, durable et vendeur à la fois. Si je produis des vêtements durables que vous n'achetez pas, je perdrai de l'argent et je devrais fermer mon usine et virer les 1300 salariés. Où est la durabilité là-dedans ?
Mais d'un autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, ne pas faire des choses durables, c'est rentable. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'y a pas une demande tellement forte que ce sera passé à côté d'un marché ?
Oui, bien sûr qu'on peut, mais il faut payer pour ça. Quand vous achetez des jeans faits au Bangladesh, vous pensez qu'ils font quoi là-bas ? Ils sont dans l'esclavage moderne. Les rivières sont bleues à cause des teintures, et jaunes et rouges à cause des évacuations des eaux. Donc, l'industrie textile marche comme ça là-bas. Pensez-vous vraiment que toutes les entreprises du monde sont aussi propres que la nôtre ? Croyez-moi, Bossa doit être dans les 10 entreprises de toile de denim les plus saines et les plus propres au monde. Ici, on vend le mètre de toile de jean, 3,50 $ le mètre, avec des travailleurs qualifiés, bien payés, et avec une entreprise respectueuse de l'environnement. Et on doit faire face à la compétition du Bangladesh, du Pakistan, où le prix de vente au mètre est de 2,20 $. Moi, je suis très fier d'ouvrir mes portes et faire visiter ma fabrique à tout le monde. Mais croyez-moi, si vous allez dans leurs usines, le lendemain, vous n'achèterez plus leurs jeans.
À 3500 km de là, à Florac, dans le centre rural de la France, un couple de jeunes entrepreneurs a justement décidé de faire les choses autrement. Julien Tuffery et sa femme ont donc repris la manufacture familiale, l'une des premières au monde à avoir fabriqué du jean. C'était en 1892. Ici, ils vendent des produits en coton, mais aussi faits avec de nouvelles matières moins polluantes et locales, comme des jeans en laine ou en chanvre.
Allez, on y va ? Alors, on s'installe. On met nos jambes. Valeur du bassin. Alors, on n'a pas un bassin qui fait 15 km. On inspire profondément. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On stoppe et on souffle.
Donc, qu'est-ce que vous faites, là ?
Bah, déjà, on se retrouve tous à 8 heures. C'est souvent la journée, tout le monde fait sans ses tâches. C'est vrai qu'on se croise. Et c'est bien parce que le temps à 8 heures, on se met tous ensemble. Et on passe ces grosses 10 minutes à s'échauffer, à s'étirer pour préparer la journée. Préparer le corps à fabriquer ses pantalons et surtout à faire en sorte qu'on ne se blesse pas dans le temps.
Et après, on va se taper pour réveiller tout ça.
Merci beaucoup. Trop bien.
Moi, je suis Julien Tuféry, donc je suis en charge de l'atelier Tuféry. Je fais partie de ces jeunes chefs d'entreprise. Je crois beaucoup à l'activité manufacturière française. Je suis persuadé qu'elle a de très, très, très beaux jours devant elle, à condition qu'elle se métamorphose. Dans les années 70, c'était facile. On avait des dames, notamment, je ne tombe pas dans la caricature, mais c'était le cas. Ben, on allait à l'usine, on s'asseyait devant une machine, on faisait 5000 tâches identiques tous les jours. Et on ne faisait que ça. Bon, mais ok, c'était comme ça, c'était acté. On venait chercher le salaire à la fin du mois. Là, aujourd'hui, je vous mets au défi de penser ces modèles-là avec les jeunes générations. C'est fini. Et je préfère dire que c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, il faut s'émanciper sur le poste de travail. Il faut faire 50 tâches différentes dans la journée, c'est ce qu'on fait là. Il faut co-créer les produits avec l'équipe. Il faut impliquer l'équipe de fabrication dans tout le processus de la manufacture. Alors oui, c'est sûr que tout ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mais par contre, c'est juste génial parce qu'on n'a pas de turnover. Et parce que les personnes, en fait, plutôt que de simplement venir travailler bêtement devant une machine à coudre, en fait, elles sont partie prenante de l'entreprise. J'ai souvent l'habitude de dire que les super conditions de travail, elles ne sont pas réservées aux entreprises du numérique, du digital et du web. Vous remplacez juste ordinateur par machine à coudre et ça marche.
Le jean le moins cher chez vous, il est à 109 euros. Ouais. Comment vous expliquez ce prix? Comment vous le justifiez? Comment vous le décomposez?
Le moins cher chez Atelier Tuféry, c'est 99 euros. Alors, je vais arrondir à 100 euros. Sur ces 100 euros, alors ça c'est pareil, encore une fois, ce prix-là n'est tenable que parce que les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ce jean-là, c'est à peu près un jean qui, en coût de revient, me coûte à peu près pas loin de 60 euros. On va dire 60 euros de coût de revient. C'est énorme. Vous allez au fin fond de la planète, il y a des ateliers qui sont capables de faire à peu près le même jean entre 3 et 4 euros. Sur ces 60 euros, on a à peu près 30% de matière. Et tout le reste, on a l'habitude de dire que dans le coût de revient d'un jean, c'est de la main-d'œuvre d'atelier. Ensuite, derrière, entre 60 et 100 euros, vous voyez que ça fait une marge d'un produit manufacturier de 40%. C'est franchement pas énorme. Dans ces 40%-là, il faut caler tout ce qui va être le marketing, la communication, les expéditions, tout ce qui est dans l'investissement de l'atelier, c'est-à-dire extension de l'atelier, parce que quand vous reviendrez nous voir, l'atelier a triplé de volume, donc ça c'est chouette, et surtout la formation du personnel.
Ça fait combien en marge brute?
En marge brute, on doit être à peu près à une toute petite quinzaine de pourcents, quoi. Alors oui, ça peut paraître important en se disant que sur 100 euros que j'achète mon jean, il y a 15 euros qui reviennent dans la poche d'Atelier Tuféry. Mais pour le coup, ça revient dans la poche d'Atelier Tuféry et pas dans la poche de Julien Tuféry. Ces 15 euros-là nous permettent d'investir massivement dans l'extension de l'atelier, formation du personnel, achat de matière, achat de logiciels, tout ce qui va faire qu'on sera encore plus performant, encore plus beau, qu'on va pouvoir aussi développer. Et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler alors que c'est une part importante, tout notre R&D. Vous allez voir des champs de chanvre, vous allez voir des fils de laine, vous allez voir tout ça. Mais tout ça, c'est un coût qui est colossal et qu'on s'autofinance. On a quelques subventions, mais franchement, largement pas assez pour tout ce qu'on fait.
Et pourquoi investir là-dessus, alors?
Pourquoi investir là-dessus? Parce que je pense qu'on ne pourra pas trop se permettre d'avoir le luxe de faire voler ou naviguer des bottes de coton qui viennent de très très loin, très longtemps. Je pense que du coton, c'est une matière qui est en sursis qu'on ne pourra peut-être plus utiliser dans 30 ans, quoi.
Oui, François, ça va? Bon, super. Écoute, pour te dire qu'on va, sortir de la vallée pour aller sur ton coste, donc on part de l'atelier, là. On se rejoint où? À Carnac?
Oui, à la maison, à la bergerie.
Ouais, à la bergerie, bah écoute, avec grand plaisir. Merci François, à toutes. Salut, ciao.
Vous êtes devant ma collection de jeans 2020.
Donc ça, on est d'accord que c'est des ballots de laine.
Voilà, donc il faut avoir un peu d'imagination entre les ballots de laine et mes jeans de 2020. Mais alors pour le coup, voilà, c'en est le parfait exemple.
Alors, François Mante, je suis éleveur paysan en Lozère sur le Cosmejan depuis 2007, réinstallé en brebis laitière pour la filière Roquefort. Donc c'est des brebis qui vont dehors... quotidiennement, en fait, ça fait partie d'une des obligations de notre cahier des charges. Elles sont alimentées à base de foin et d'herbes, en fait, et de céréales produites sur l'exploitation et autoconsommées.
Et donc aujourd'hui, la laine de vos brebis, elle a une seconde vie?
Ben, la laine, jusqu'à maintenant, c'était en fait un produit qu'on négligeait complètement, puisqu'en fait, on tondait, c'était une tâche et une charge annuelle qu'on était obligé de faire pour le bien-être animal d'ailleurs. Et donc l'initiative de Julien et de son entreprise était d'arriver à à valoriser cette laine un petit peu mieux, plutôt que de l'exporter directement en Chine pour la voir revenir sous différentes formes.
C'est ce que vous faisiez avant ?
C'est ce qui se produisait avant, oui.
Et là, vous vous êtes dit, vraiment, la laine de mes moutons peut servir à faire du jean ?
On s'est dit, mais pourquoi pas, c'est génial, cette laine qu'on jette quasiment quand on ne fait rien, pourquoi elle ne resterait pas ? Elle ne reviendrait pas dans un circuit court, être intégrée dans un pantalon ou une veste à Florac à 20 km, quoi. Donc, c'est pas notre production principale, c'est pas ce qui nous fait vivre. C'est le lait ou la viande des agneaux, donc c'est un petit plus, mais intellectuellement, c'est génial. On dépasse la réflexion purement agricole, quoi, et voilà, on essaye de faire, de revaloriser cette matière noble, quand même, qui est la laine, quoi. Le rapport entre le prix vendu comme ça en brut, sans savoir où ça va, et le prix qu'on arrive à valoriser avec ces fabrications-là. Allez, on part de 30 centimes du kilo à 1,50€, quoi.
Donc vous vendez plus cher pour que ce soit réutilisé en fil que quand vous l'envoyez à un exploitant qui l'envoie en Chine. Donc pour vous, économiquement, c'est aussi mieux.
Bien sûr, hein. C'est évident.
Est-ce que vous pensez que c'est un changement de manière de produire, de changer les matières premières qui soit essentiel aujourd'hui ? De remplacer le coton par la laine, par exemple ?
C'est pas une mode, je pense que c'est une évolution sociétale qui fait que on redécouvre le vivant, la matière et les produits naturels, les fibres végétales, les fibres animales, la laine, le chanvre, le lin. On en a un peu marre de porter du synthétique et des produits transformés je ne sais où, et de la façon la moins transparente possible.
Dans la boutique de l'atelier Tufféry, le premier jean est vendu 99€. Ce n'est donc pas accessible à tous les budgets, mais c'est le prix de la qualité et du réel coût du travail, explique Naïla Ajaltouni. C'est la directrice du collectif Éthique sur l'étiquette qui lutte pour les droits des travailleurs de l'industrie textile. Je l'ai rencontrée dans son bureau à Paris.
Il y a un premier élément qui est qu'un jean à 5€, ça n'existe pas. Derrière un jean à 5€, on a ignoré le travail d'individus, leurs conditions de travail, leur vie, leur droit à la dignité. On a ignoré les pollutions massives et irréversibles, etc. Encore une fois, on s'est habillé autrement qu'avec des jeans à 5€, même quand on avait très peu de moyens, même les classes plus pauvres, populaires, il y a quelques années. Donc c'est un système économique qui a été créé pour que des marques vendent en masse pour un modèle très rentable, selon le principe de la grande distribution, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que l'alternative proposée par des marques responsables est très chère. Il faudrait aller creuser quelle part de ce prix repose aussi sur la communication, du marketing, etc. Bon, la marge fait entièrement partie du modèle économique des marques, c'est normal. On aurait le droit de questionner aussi ce prix assez élevé. Et il y a un coût tout à fait justifié qui est effectivement le coût du travail, le coût de normes sociales, le coût de normes environnementales qui sont un investissement pour notre avenir, qui est la façon selon laquelle on doit acheter et consommer. Et puis je pense quand même qu'il y a le développement de marques intermédiaires et qu'on devrait pouvoir arriver à des prix quand même moins élevés qui permettraient à la masse de s'habiller correctement. Il faut encore une fois aussi une intervention des pouvoirs publics pour soutenir ces projets, parce que de la même manière que le café équitable a été très cher à ses débuts, l'augmentation de sa consommation, de son achat, par un mécanisme tout naturel de l'offre et de la demande, a fait qu'on a réussi largement à aligner des prix, et surtout qu'on a un café de grande qualité, de grande diversité. Donc il y a la question de la qualité, on la retrouve aussi dans le vêtement. Un vêtement très cher n'est pas nécessairement de très grande qualité, mais un vêtement peu cher est quand même très généralement de mauvaise qualité. Donc on peut avoir ce critère-là. Et puis je pense aussi aux marques pour lesquelles on est prêt à investir, enfin des marques de sport ou des marques intermédiaires. Je pense à Claudie Pierlot, Mage, Zadig et Voltaire, etc. Les petites qui sont très chères, qui ne sont pas nécessairement de bonne qualité, qui ne sont pas nécessairement faites dans de bonnes conditions. Donc parfois, on arrive à acheter des vêtements chers pour des aspects de mode. On peut tout à fait reporter ce type de choix, encore une fois, lorsqu'on le peut, sur des marques responsables, parce que l'offre s'est tellement diversifiée. Il y a eu un tel effort et talent quand même dans la création qu'on trouve aujourd'hui des marques vraiment très belles, très tendances, y compris dans l'équitable. Et encore une fois, il reste la seconde main. L'idée, c'est quand même qu'on aille vers une diminution de nos achats, pour des pièces plus responsables, plus saines, pas seulement pour les travailleurs, mais aussi pour nous, et contribuer ainsi à l'évolution du modèle économique.
Et cette semaine, dans Transversal, nous nous intéresserons notamment aux zones de sacrifice du Chili. Ce sont des zones saturées d'usines qui sont à l'origine de conflits socio-environnementaux dans le pays. Car si les habitants ont repris espoir avec la manne d'emploi que l'installation de ces usines leur propose, ils sont aussi soumis à des pics de pollution intenses qui nuisent à leur santé. Marion Hainaut est allée à la rencontre des habitants et des syndicats dans la baie de Quintero Punchukavi, l'une des 5 zones de sacrifice du pays que le nouveau président progressiste chilien veut assainir en fermant les usines, un soulagement mais aussi une source d'angoisse pour les travailleurs.
Dans les années 60-70, il y avait seulement 3 entreprises. Aujourd'hui, il y a 16 grandes entreprises dans cette zone. C'est pour ça que l'environnement et les personnes sont si touchées. Ce cordon industriel a grandi de manière disproportionnée, avec des normes laxistes et parfois même une absence totale de normes environnementales. Et en d'autres cas, ausencia totale de normativa
medioambientale. En juin dernier, Juan s'est mobilisé contre la décision de fermer cette fonderie, soupçonnée par les autorités d'être la source principale d'un nouveau pic de contamination et d'intoxication de nombreux habitants de la baie.
Nous n'avons jamais été favorables à la fermeture. Ça affecte directement ce qui est très important pour l'être humain, son travail. Bien entendu, nous sommes d'accord que la santé et la vie sont plus importantes que le droit au travail. Mais quand nous avons fait grève et arrêté la fonderie le 16 juin dernier, pendant un mois, il y a eu 5 épisodes de pollution qui ont impacté les enfants de Quintero et Punchukavi. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que la source d'émission des épisodes de contamination vient de la fonderie. Le plus simple, sûrement, était de fermer, parce que l'État peut le faire. Mais moi, je me demande, ils vont faire la même chose avec les entreprises privées qui sont dans la zone industrielle? Je ne crois pas. Malheureusement, personne ne prend ses responsabilités et ça termine en décisions simples comme la fermeture. Alors qu'on pourrait développer une industrialisation solide pour le développement dont le pays a besoin.
Je peux vous demander si vous avez eu des problèmes de santé, vous qui êtes au plus près de la contamination finalement?
C'est une très bonne question. Franchement, non. On n'a jamais eu un travailleur intoxiqué. C'est la particularité de cette histoire. Les intoxications ont eu lieu dans les villes, mais pas dans le lieu qui est supposément la source de la pollution. C'est regrettable parce qu'on succombe à l'ignorance. On n'a jamais su qui a vraiment émis les contaminants qui ont rendu les gens malades. On croit que telle personne est morte à cause de la pollution parce qu'elle a eu un cancer, ou on croit que cette personne est décédée parce qu'elle a eu cette maladie qui pourrait être associée à ceci. Mais franchement, si c'était le cas, les gens auraient poursuivi en justice. Porque si realmente lo hubiera, yo creo que la gente hubiese demandado.
Que ce soit du côté des travailleurs de la zone industrielle comme des habitants de la baie, il ne fait aucun doute, il manque cruellement d'études scientifiques.
Tout cela au programme de Transversal que l'on retrouve demain sur la première entre 12h et 13h.